RCF.
Anne Lécu, dans le livre « 5 éloges de l'épreuve » paru chez Albin Michel, vous faites l'éloge des larmes. Tout d'abord, je précise que vous êtes sœur dominicaine de la présentation de Tours et puis également vous êtes médecin en prison. Vous commencez par faire l'éloge des larmes en citant un texte du moine bénédictin Gilles Baudry. Ça a quelque chose de poétique, les larmes, selon vous ?
Ça fait partie du mystère, les larmes, et la poésie aussi. Je crois que la poésie s'approche, voudrait s'approcher du mystère de qui nous sommes, de nos questions. C'est quelque chose de très grave, la poésie, et je crois que les larmes aussi. Et c'est sans doute pour ça que la poésie parle si bien des larmes.
Vous dites dans le texte que vous avez rédigé qu'il y a des époques où on pleure beaucoup, d'autres où on pleure moins, et que ça dit quelque chose, justement, de l'époque en question. C'est significatif de quoi, selon vous ?
C'est significatif du rapport à soi, du rapport aux autres, peut-être, du rapport à la transparence, au secret, au mystère, sans doute du rapport à Dieu. Ça nous situe dans le monde et dans nos rapports aux autres.
Et dans notre capacité à nous laisser émouvoir aussi ?
C'est pas que de l'émotion, les larmes, justement, parce qu'on peut être très ému sans pleurer, on peut pleurer sans être très ému. C'est toute la question d'ailleurs du sujet des larmes en fait, c'est qu'est-ce que c'est que cette chose-là ? Qu'est-ce que c'est que ce phénomène ?
Il pourrait y avoir une approche quasi médicale des larmes ?
Alors, l'approche médicale, elle existe, mais elle est très scientiste, c'est-à-dire que les sites internet où vous voulez savoir ce que c'est que les larmes, on va vous parler en gros de tuyaux, de rentrée d'eau, de sortie d'eau. Donc je pense que l'approche intéressante, c'est l'approche soit poétique, soit phénoménologique, en essayant de se demander de quoi ça parle.
Et alors, de quoi ça parle, d'après vous ?
Ça parle de l'intérieur, ça parle de l'intimité, de ce qu'il y a en nous qui veut se dire ou pas. Ça parle de la parole. Il y a des auteurs qui vont dire qu'il y a une éloquence des larmes. Il y a des gens, quand ils n'arrivent pas à parler, ils n'arrivent pas à pleurer non plus. Il y en a d'autres, quand ils n'arrivent pas à parler, ils pleurent. Donc, les larmes disent quelque chose
de
l'indicible. Je pense que c'est aussi une forme de langage.
Vous dites dans le texte qu'il y aurait plus de quoi s'inquiéter de quelqu'un qui ne pleure pas que de quelqu'un qui pleure.
Alors ça, je pense ça vraiment, enfin, notamment avec la prison. J'ai été amenée une fois ou l'autre à rencontrer des femmes qui ne pleurent pas, qui ne peuvent pas pleurer, qui le disent et qui en souffrent terriblement. Et notamment, je me rappelle d'une d'entre elles qui avait des plaques dermatologiques rouges partout sur le corps et elle racontait que son corps qui suintait, c'était son âme qui pleurait. Parce qu'elle ne pouvait pas pleurer. Et donc, il fallait que ce qu'elle avait à l'intérieur, qui ne pouvait pas sortir par les larmes, sorte autrement.
Donc, c'est un bienfait, les larmes ?
Je pense que c'est une bénédiction. Alors après, il y a l'autre version, qui est ceux qui n'arrivent pas à s'arrêter de pleurer. C'est aussi très inconfortable de ne pas pouvoir s'arrêter de pleurer.
Ça arrive ?
Moi, ça m'arrive. Donc, c'est aussi pour ça, je pense, que j'ai écrit sur les larmes. C'est oui, ça m'est arrivé.
Des larmes intarissables qui peuvent tout d'un coup nous noyer. Oui, nous saisir.
Alors peut-être que c'est parce qu'on n'a pas les mots pour dire, pour que ça s'arrête, peut-être.
Quand vous faites l'éloge des larmes, Anne Lécu, vous faites l'éloge du corps. En faire l'éloge à travers les larmes, quel rapport ?
Alors je crois que les larmes disent aussi quelque chose de très important aujourd'hui. Il y a une opacité des larmes. C'est-à-dire, je crois vraiment que quand on pleure, on voit des choses de façon troublée, qu'on ne verrait pas, qu'on ne sentirait pas de façon transparente et limpide avec les yeux secs. Beaucoup de poètes ont écrit ça. Il me semble que cette opacité, c'est l'opacité du corps. Et ça veut dire aussi qu'on n'est pas transparent les uns aux autres et que cette espèce de mode contemporaine et sans doute moderne, parce qu'elle remonte à loin, d'une espèce de connaissance qui serait nécessairement liée au fait de voir tout de façon transparente et claire, c'est une pure illusion. On n'est pas une machine qu'on pourrait dépiauter pièce par pièce pour pouvoir l'expliquer. Et donc faire l'éloge du corps, c'est dire qu'il y a en nous une transcendance plus que nous-mêmes, une intériorité qui n'est pas mathématique, qui n'est pas quantifiable. Donc c'est vraiment faire l'éloge de notre épaisseur.
On a aussi parfois le sentiment qu'au contraire, les larmes, c'est très impudique. On est parfois très gêné quand ça nous arrive.
On est très gêné quand ça nous arrive parce que ça relève de l'intimité. Et aussi, il y a l'époque. On est très gêné parce que c'est l'époque qui commande qu'il ne faut pas pleurer. On aurait vécu au 18e ou à la fin du 17e, on aurait été au théâtre, on aurait tous pleuré. Le lecteur de Rousseau à la fin du 18e, S'il ne pleure pas, c'est que ça ne va pas, en fait.
Aujourd'hui, c'est quand on pleure que ça ne va pas.
Alors, soit aujourd'hui on pleure, il y a une forme de larme impudique, c'est celui qui pleure parce qu'il a raté sa tarte dans le confessionnal de Masterchef, par exemple. Donc là, je pense qu'on retrouve un peu ce qui se passait avec Rousseau, cette espèce d'émotivité à fleur de peau.
Mais théâtralité.
De théâtralité, qui ne relève pas de l'intime, justement. Parce que l'intime, pendant ce temps-là, on ne l'entend pas, quoi.
Anne Lécu, vous faites, en faisant l'éloge des larmes, vous faites également l'éloge d'un Dieu qui pleure.
Alors ça, oui, je pense que c'est très très important, parce que dans l'Évangile, Jésus pleure. Deux fois dans l'Évangile, une fois dans l'Épître aux Hébreux, on voit Jésus qui pleure. Il pleure de désolation sur la ville de Jérusalem, qui quand même ne comprend rien. Et je pense que quand il pleure devant la ville de Jérusalem, la ville sainte, il continue de pleurer aujourd'hui quand nous-mêmes, on ne comprend rien, quoi. Il pleure à la mort de Lazare. Ça veut dire que toute personne qui pleure à la mort d'un proche, ses larmes sont enveloppées par les larmes du Christ, elles sont portées par ses larmes. Et puis, nous dira l'Épître aux Hébreux, le Christ, dans un grand cri et des larmes, meurt sur la croix. Et je crois que ce grand cri et ses larmes emmènent toute l'énigme du malheur de l'homme, l'immensité de la souffrance que les gens peuvent vivre, c'est contenu dans les larmes du Christ. Donc oui, Dieu pleure.
Contenu et transformé ?
Contenu et emmené, porté chez son père. Porté chez son père, peut-être pour qu'elle devienne un jour des larmes de joie, je ne sais pas. J'aime beaucoup ce que dit Lévinas. Toute larme sera comptée en Dieu. Toute larme est digne de résurrection.
Et là, il y a une consolation ?
C'est juste qu'on n'est pas seul dans nos larmes. Je crois que quand on pleure toujours devant quelqu'un. Quand on est absolument seul, on n'arrive pas à pleurer. Et justement, l'ami qui arrive va nous faire pleurer.
Va déclencher
les larmes.
Ouvrir les vannes.
Ouais.
L'éloge d'un Dieu qui pleure et qui aime le monde. Vous dites qu'il faut aimer ce monde qui pleure aussi quelquefois.
Alors je trouve que l'éloge des larmes, c'est, comme vous disiez tout à l'heure, l'éloge du corps, l'éloge du monde, l'éloge de notre temps, l'éloge de Dieu, ça veut aussi dire que les larmes, c'est l'antignose par excellence.
Qu'est-ce que c'est la gnose ?
La gnose, c'était ces théories du début du christianisme et dont on retrouve encore des traces aujourd'hui, qui poussaient les gens, comme certains hérétiques, à fuir le corps, à fuir le monde en se disant, finalement, il y a un Dieu gentil, il y a un Dieu méchant qui se font la guerre. Alors, il y a plusieurs versions des gnoses, hein. Et la conséquence, c'est que finalement, la création est une création ratée. Et parmi cette création ratée, quelques élus qui ont la connaissance, d'où le nom de gnose, peuvent retrouver Dieu, le reste est foutu. Eh bien, les larmes, en nous incarnant, en nous faisant être là, je pense que quand on pleure, on est absolument là. Même si parfois on pleure sans s'en rendre compte, des larmes de joie peuvent couler, tellement on est dans l'émotion qu'elle déclenche. Mais on n'est pas ailleurs, on est tellement pris dedans qu'on est là. Alors que la gnose, c'est précisément ne pas être là. C'est fuir le temps, fuir le monde, fuir son corps.
Or, on n'est pas fait pour ça.
Et non, parce que quand même, le Christ, enfin moi comme chrétienne, si Jésus-Christ s'est fait homme, c'est qu'il juge que la condition humaine est la maison de Dieu. Il a choisi de venir faire sa maison parmi nous, pas juste 33 ans comme ça en passant, mais définitivement, c'est-à-dire que même en ressuscitant, il nous emmène chez son Père. Et définitivement, nous sommes de la Trinité avec lui. Donc si le Christ a choisi pour que Dieu vienne rejoindre l'homme, la condition humaine, donc un temps précis, un corps, le corps de l'homme, et ce monde-là, vouloir le quitter, c'est juste le contraire du christianisme. Et je crois qu'aujourd'hui, là, une certaine tendance de transparence, de vouloir transformer le corps sous toutes sortes de dispositions, d'accélérer le temps et d'aller vouloir aller sur la planète Mars ou sur la Lune, a encore des bons gros relents gnostiques. Donc on n'est pas sorti de la gnose, elle se déguise, c'est normal, elle s'est toujours déguisée. Et à nous, chrétiens, d'essayer de forger les outils pour dire que non, ce n'est pas ça qui va nous aider à vivre, ce n'est pas ça qui va nous rendre heureux.
Une dernière chose, on associe volontiers les larmes au chagrin, à la tristesse, au désespoir. Vous l'avez dit en quelques mots, là, il y a aussi des larmes de joie.
Alors tout à fait, alors, c'est pour ça que le phénomène des larmes est très intéressant, c'est qu'il est absolument continu de la tristesse à la joie. Donc après, il y a des phénoménologues qui sont interrogés, il y a des larmes tendues, des larmes distendues. N'empêche que, par exemple, Marie-Madeleine, au tombeau, vide, le matin de Pâques, elle pleure parce qu'elle a perdu son bien-aimé, il l'appelle par son nom, et elle pleure parce qu'elle l'a retrouvé. Il y a une sorte de continuité de ses larmes, et en même temps, tout est transformé. Les larmes de joie, pour moi, c'est l'aboutissement des larmes. C'est vraiment ce qui en nous déborde quand on est dans une situation avec quelque chose qui nous dépasse. Une situation et en général une rencontre qui est plus grande que nous, ou qui nous fait être plus grand que nous-mêmes. Et ça peut être parfaitement ce qu'illustraient les mystiques dans toute la tradition médiévale et puis orthodoxe, sur le don des larmes. Et ça, je pense que quand même beaucoup l'expérimentent. Ça peut tout à fait vous arriver à un moment d'être recueilli, pas forcément dans un lieu de culte d'ailleurs, mais vous lisez un poème, je ne sais pas, moi ça m'est arrivé avec Peggy, vous lisez un poème de Peggy, et là, il y a quelque chose en vous de plus grand qui vous fait verser une larme tellement c'est beau.
Les larmes, c'est la vie, Anne Lécu.
Les larmes, je pense que ça a un rapport avec la vie, et ça on le dit depuis la grande antiquité, parce que même pour les Égyptiens, il paraît, moi je ne suis pas allée voir hein, dans les textes, mais les larmes pour eux étaient comme le sperme, un fluide vital. C'était la manifestation de la vie dans le corps de l'homme.
Il ne faut pas avoir peur des larmes.
Il ne faut surtout pas avoir peur des larmes, surtout pas.
Elena Lacida, vous êtes économiste, spécialiste du développement durable et de l'économie solidaire. Vous enseignez à l'Institut catholique de Paris et vous faites donc l'éloge du manque. Le manque, c'est la confrontation pour l'humain à sa finitude, à son imperfection. Et dites-vous, c'est toujours associé à une forme de souffrance. Alors pourquoi est-ce que vous avez envie de faire l'éloge du manque ?
C'est vrai que le manque, c'est une expérience humaine fondamentale et je pense que toute personne dans sa vie fait l'expérience du manque. Le manque, pour moi, c'est la perte, c'est la rupture, c'est l'échec d'un projet. Si je fais l'éloge, c'est parce que je pense que ces manques, ces pertes sont toujours des vides qui créent la place pour faire émerger du nouveau.
J'aimerais qu'on s'arrête un instant sur cette sensation de manque. D'abord, elle est universelle, d'après vous, ou elle peut être très culturelle, finalement, et liée à nos sociétés de consommation ?
Ah non, je pense qu'elle est universelle. Évidemment, dans nos sociétés de consommation, souvent, elle est très associée au manque de biens matériels, parce que, justement, on a un peu cette illusion que consommer est produit du bien-être et du bonheur. C'est vrai que les biens matériels font partie des choses qui nous font vivre bien, mais le problème dans nos sociétés de consommation, c'est que parfois on les a absolutisés. Mais je pense que le manque est une expérience universelle.
Vous pensez que les sciences humaines, et notamment tout ce qui tourne autour de la psychologie, de l'inconscient, nous ont permis de comprendre un peu mieux ce vide, ce manque fondamental qu'on porte tous ?
Oui, je pense que là, la psychologie a beaucoup contribué à la pensée sur le manque, sur le vide. Alors, vous savez, moi, je viens de l'économie. Donc, pas du tout de la psychologie. Et donc, les économistes, en fait, quand ils parlent de manque, c'est déjà un mot qu'on n'utilise pas trop, on parle de rareté. Il y a des biens qui sont rares, qui ne sont pas en surabondance. Et donc, justement, l'économie, c'est pouvoir augmenter la production et la circulation de ces biens pour qu'ils puissent être accessibles à tout le monde. Et pour moi, un peu, si vous voulez, l'éloge du manque, c'est aussi de dire, nous, les économistes, nous avons à avoir cette approche du manque qui n'est pas uniquement liée à la production matérielle, mais qui est ce que les rapports que nous avons avec les biens et comment les biens médiatisent les rapports entre les personnes.
Le texte que vous avez écrit, la réflexion que vous proposez, ça n'est pas du tout dans le but de permettre à ceux qui vous liront, vous écouteront, de combler ce manque, de le remplir ou au contraire de l'absolutiser puis du finalement d'en faire une éloge qui consisterait à dire au fond le manque c'est bien. Vous avez choisi une troisième voie, laquelle ?
Oui, pour moi le manque n'est pas appelé à être comblé. Alors évidemment il y a certains manques quand on a faim. On veut bien se nourrir, mais le manque dont je parle, qui est un manque plus existentiel, je dirais, je pense qu'il n'est pas appelé à être comblé, il est appelé, je dirais, à être engendré. C'est un manque qui peut faire émerger quelque chose d'autre de ce qui existait avant. Parce que quand on parle de combler le manque, c'est remplir le vide de la même chose qu'il y avait avant. Pour moi, c'est comment ce vide peut faire naître quelque chose qui n'existait pas, qu'on connaissait pas, et qui peut justement améliorer la vie, mais parce que c'est nouveau.
Mais pourquoi est-ce que le manque pourrait faire naître quelque chose qui n'existe pas ? À partir de quoi ?
Je pense que ça prend toute la vie de déployer ses compétences. Et c'est vrai que quand on fait toujours les mêmes choses de la même manière, il y a, je pense, plein de compétences qui restent là un peu en sommeil. Et je pense que c'est quand on est confronté à la limite, et donc au vide et au manque, que là, on est sollicité à développer des choses qui sont nouvelles.
Est-ce qu'on peut dire que du manque naît le besoin de lien, de relation avec l'autre, qui va peut-être... non pas combler mon manque, mais m'apporter des choses dont j'ai aussi besoin, mais aussi surtout dans une réciprocité.
Oui, absolument. Le manque nous rappelle que nous ne sommes pas autosuffisants. Et contrairement à ce qui nous fait croire aujourd'hui, la société de consommation, qui nous dit, si vous pouvez consommer, vous satisfaites vous-même vos besoins. Et le manque, je pense, justement, du moment qu'il n'est pas comblé, nous révèle que peut-être le principal besoin que nous avons, c'est ce besoin de relation, et que c'est avec les autres que nous nous réalisons, et jamais toute seule.
Pour passer de la dépendance à l'interdépendance ?
Absolument, oui. Cette idée d'indépendance est un peu un imaginaire très fort dans nos sociétés modernes, où on veut être autonome.
N'avoir besoin de personne.
Voilà, être quitte de tout le monde, ne pas dépendre. Vous voyez aujourd'hui comment la maladie ou la vieillesse qui mettent la personne beaucoup plus en dépendance sont très mal vécues. Et l'idée du manque et du vide, c'est de dire non, il y a une dépendance qui est positive. Si elle est interdépendance, s'il n'est pas une relation où c'est l'un qui donne et l'autre qui reçoit, mais si on peut établir une relation où chacun à la fois peut donner et recevoir de l'autre.
Alors Elena Lacida, dans le texte que vous avez écrit dans ce livre « 5 éloges de l'épreuve », vous insistez aussi sur l'aspect biblique en disant que finalement dans la Bible, tout ce qui est arrivé de nouveau est né d'un manque. La création, Dieu part du chaos pour faire émerger de la vie, le peuple qui quitte la terre d'Égypte pour la liberté parce qu'il manque de liberté, Marie et Élisabeth qui se rencontrent à partir d'un manque vis-à-vis des conventions de l'époque. Enfin, voilà. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là ?
Vous savez, la Bible, c'est des récits de vie. Ce n'est pas des dogmes, ce n'est pas des principes à appliquer. La Bible, c'est plein d'histoires. Et ces histoires, en fait, nous disent comment, à travers la vie et l'expérience des hommes et des femmes d'une époque donnée, ils ont fait cette expérience de Dieu. Et donc, à travers ces récits qui parlent de manière différente de comment une expérience de manque, de vide, a permis d'aller vers quelque chose de nouveau, vers la terre promise, vers la création des choses qui n'existaient pas, vers justement
l'arrivée
l'acceptation.
Du Messie.
Oui, l'arrivée du Messie, par exemple. Cette expérience, pour moi, est profondément humaine, est aussi une expérience spirituelle. Et que si Dieu se fait présent dans nos vies, ce n'est pas tellement parce qu'il vient combler ce qui nous manque. Vous savez, parfois on a des rapports à Dieu où justement on fait appel à Dieu quand nous sommes justement dans la difficulté, dans le manque. Et je pense que c'est naturel de le faire. Mais je pense que c'est pas tellement en termes de qu'il vienne combler ce qui nous manque, mais que c'est ce que, à mon avis, dit la Bible, c'est comment ces expériences du manque, s'ils sont des expériences spirituelles, et si Dieu se fait présent à l'intérieur de ces expériences, c'est parce que, justement, elles font naître la vie d'une manière nouvelle. Elles sont porteuses de vie, elles sont sources de vie d'une manière nouvelle. Et c'est là que l'expérience humaine devient expérience spirituelle.
Peut-être que la plus belle expérience de ce que vous venez de dire là, Elena Lacida, c'est ce avec quoi vous terminez votre texte, c'est l'expérience du tombeau vide.
Oui, tout à fait. Pour moi, c'est une expérience qui me parle toujours beaucoup parce que, vous savez, c'est ce récit de l'évangile de Jean. Il y a Jean et Pierre, Marie-Madeleine vient de leur dire que le tombeau était vide et donc ils courent vers le tombeau et Jean dit qu'il arrive au tombeau et qu'il n'ose pas rentrer. C'est après que Pierre est rentré qu'il rentre, et il a cette phrase que je trouve magnifique, il dit « j'ai vu et j'ai cru ». Je me suis souvent posé la question, mais qu'est-ce qu'il a vu? Il n'y avait rien, justement, et le corps n'était pas là. Et c'est ça l'expérience du tombeau vide. Cette expérience du vide ouvre à une autre forme de présence, à quelque chose justement de radicalement nouveau, d'imprévu, cette possibilité que la vie aujourd'hui peut apparaître toujours d'une manière nouvelle.
Cet éloge de l'épreuve, pour vous, c'est une manière de dire que ce vide, quelquefois abyssal, qu'on peut ressentir et qui peut être source d'une très grande angoisse, ça n'est pas forcément la fin de tout. De là peut naître plus de vie.
Absolument, oui, oui. Cette expérience du vide, que comme vous dites, je pense que c'est une expérience radicale et profonde et qui touche aux tripes. Enfin, ce n'est pas le manque comme ça, superficiel. J'ai faim et j'achète un gâteau. Non, c'est le manque des.
C'est fondamental.
Qui, oui, qui nous traverse de l'intérieur. Et je pense que c'est là, quand on se laisse traverser par ce vide, qu'on n'essaye pas tout de suite de le combler et de se consoler, je dirais, c'est là où le radicalement nouveau peut naître. Ça ne dépend pas de notre volonté, ça ne dépend pas de notre capacité à nous remettre debout, c'est de l'ordre du don. Et je pense que pour recevoir un cadeau, vous savez, il faut justement faire avant tout cette expérience du manque, pas de quelque chose qu'on produit soi-même, c'est quelque chose qu'on reçoit. Et je pense que la vie, avant tout, c'est un don, et que pour la recevoir, il faut faire du vide.
Nathalie Sartoulaju, vous êtes philosophe, vous êtes rédactrice en chef adjointe de la revue Études, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, et vous avez choisi de faire dans ce livre « 5 éloges de l'épreuve » l'éloge du tragique. Qu'est-ce que c'est que le tragique de l'existence?
Pour moi, le tragique, ce n'est pas le désespoir. Voilà. Ce serait plutôt le désespoir surmonté que le désespoir. Et en ce sens-là, je crois que le tragique, pour moi, ne s'oppose pas du tout, par exemple, à la joie. Je pense que quelqu'un qui a connu, qui a fait l'épreuve du tragique dans sa vie, sous différentes formes, hein, je dirais il y a le tragique ordinaire hein, de nos existences, je parle là des catastrophes ordinaires, mais qui nous redonnent, qui nous rappellent ce sens-là du tragique, comme un deuil, comme une rupture, comme la maladie. Eh bien, je pense que quelqu'un qui est passé par ces épreuves-là du tragique dans sa vie, est aussi quelqu'un qui est capable d'apprécier, de savourer la joie profonde, une joie profonde, une joie lucide et profonde.
Ça a toujours un rapport avec la mort, le tragique?
Oui, dans le sens où le tragique, d'une certaine manière, c'est la traversée de la mort, mais la traversée de la mort au sein de cette vie. Et puis ce n'est pas la traversée de la mort, puisque de la mort, malheureusement, d'une certaine, enfin, ou heureusement en tout cas, nous n'en savons rien. Mmh. Et nous préférons nous en détourner. Et puis on aurait tendance à penser qu'autant s'en détourner, puisque de toute façon de la mort, nous ne savons rien. Néanmoins, à travers les épreuves auxquelles nous sommes confrontés durant notre existence, il me semble que nous sommes amenés à faire l'épreuve de la mort au sein même de cette vie.
Vous écrivez que le tragique est un rapport vivant avec la mort.
Oui, parce que cette confrontation à la possibilité finalement de mourir, parce qu'au fond, quand nous sommes confrontés à une épreuve, ce dont nous faisons l'épreuve, c'est de notre impuissance.
Et donc d'une forme de mort intérieure?
Et donc d'une forme effectivement de mort intérieure. La possibilité d'une mort intérieure, la possibilité en tout cas d'un effondrement intérieur. Et nous sommes amenés à chaque fois à faire tout un chemin. Et à l'issue de ce chemin, le choix de la vie que nous sommes amenés à faire. Et choisir la vie, c'est toujours un choix risqué.
Pourquoi ?
C'est un choix risqué parce que c'est choisir de nouveau de s'exposer, je dirais, à d'autres blessures vers le choix de la vie. S'exposer à l'imprévu.
C'est pour ça que ça a un rapport avec la passion, avec les passions. Le côté, dites-vous, déraisonnable de l'homme.
C'est vrai que le tragique est lié à la passion, à une forme de démesure qui est présente en l'homme, ce que les Grecs appelaient l'hubris. Hein, mais cette démesure, elle peut le pousser à la destruction, au refus de toute limite. Mais aussi, cette démesure, c'est ce qui rend l'homme créatif, capable de soulever des montagnes, de se dépasser. Sans cette passion-là, hein, si vous voulez, il n'y aurait aucun progrès de l'humanité possible.
Vous parlez dans votre texte, Nathalie Sartoulaju, de la culture andalouse dans laquelle le tragique est très présent. Vous parlez aussi, bien sûr, des tragédies, des textes qui s'inspirent de cette condition humaine. Est-ce qu'il y a une forme de fascination vis-à-vis du tragique de nos vies ?
Le sens du tragique, c'est un grand thème romantique. Et il pourrait y avoir une fascination, comme il y a une fascination pour la mort, finalement. Alors là, il y a quelque chose de mortifère, dans lequel je ne me reconnais pas. Mais en revanche, ce que j'aime bien, notamment dans la culture andalouse, dans le flamenco, où il y a ce sens, j'aime bien, si vous voulez, cette référence-là, parce que ça montre que le tragique, il est présent aussi dans les cultures populaires. Et pas simplement dans le romantique,
dans une élite intellectuelle.
Ouais. Voilà. Et c'est un rapport assez vivant à la mort, hein, c'est-à-dire où la mort est comme un aiguillon, un défi qui nous pousse aussi à vivre plus intensément.
D'après vous, Nathalie Sartoulaju, la foi, la Bible, les textes sur lesquels les chrétiens s'appuient pour essayer de vivre leur foi, neutralisent le côté tragique de l'humanité et que quand on croit, ben, finalement, on sort de la tragédie.
En tout cas, c'est ce que beaucoup pensent, et notamment George Steiner est un philosophe qui a écrit un magnifique livre sur la tragédie, et il dit au fond que le christianisme, c'est l'anti-tragédie. Et que les chrétiens n'ont pas le sens du tragique.
Vous êtes d'accord avec ça ?
Bah, je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. C'est pour cela que j'ai écrit ce texte-là aussi. C'est parce que je pense bien sûr par exemple à Job, au texte de Job, si vous voulez. C'est un texte tragique. Hein, c'est un cri de l'homme désespéré qui s'adresse à son Dieu, mais d'une façon désespérée. Alors ce texte de Job est souvent cité du côté de la pensée tragique. Mais ce que je trouve beaucoup plus tragique, c'est le cri du Christ sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Que l'homme soit désespéré, on peut l'entendre, et qu'il adresse ce cri de désespoir à son Dieu, mais que le Fils de Dieu lui-même puisse passer par cette épreuve-là du désespoir. Il me semble que là, dans les évangiles, on touche, si vous voulez, ce sens du tragique, qui montre bien que la foi chrétienne n'est pas forcément une neutralisation du tragique. D'abord, les croyants ne sont pas mieux armés que les autres quand ils sont confrontés aux épreuves. Et je dirais même que parfois, le fait d'avoir la foi peut être paradoxalement un accablement de plus pour le croyant, parce qu'il peut y faire l'expérience de l'absence de son Dieu et l'expérience du vide. Mais néanmoins, ce n'est pas le nihilisme. C'est pour ça que ce n'est pas le désespoir absolu. Quand le Christ jette ce cri « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Certes, c'est un cri de désespoir, mais au sein même de l'abandon, il s'adresse à Dieu. C'est-à-dire qu'au sein même de l'abandon, la relation de confiance est quand même maintenue. C'est pourquoi m'as-tu abandonné ? Et donc, si vous voulez, cette expérience que le croyant peut faire de l'abandon, de l'absence, ce n'est pas l'absurde de Jean-Paul Sartre, ce n'est pas la nausée.
Ça reste la foi, la confiance dans le noir, dans la sensation du néant, de l'abandon total.
Je dirais que c'est l'épreuve ultime de la foi. Mais c'est la foi peut-être une fois arrivée à maturité. La foi, si elle ne sauve de rien, elle est changée elle-même par l'épreuve. Elle est transformée. On quitte la foi de la petite enfance. Cette foi, je dirais, au Dieu tout-puissant, protecteur. Je trouve bouleversant cette prière que Etilsum adresse à Dieu en camp de concentration.